Attention, 30 secondes avant départ. Vous n'oublierez pas, bien sûr, de diffuser du sourire.
La chronique de Gilles Labouroir. Le sport entre histoire et société.
Cette semaine, les chroniques de Gilles s'intéressent à un club mythique du rugby français, l'Aviron Bayonnais. Né d'un schisme au sein de la Société Nautique de Bayonne, l'Aviron Bayonnais voit le jour en 1904. Les pionniers sont l'Écossais Alfred Russell et le Gallois Owen Rowe, à qui l'on doit le jeu à la bayonnaise ou le jeu de passe incessant. On doit à Albert Caudron, courtier maritime, d'organiser des matchs entre la capitale galloise et la ville de Bayonne. Owen Rowe était arrivé avec dans ses bagages un livre que personne en France n'avait ouvert, The Modern Rugby Game, écrit par Gen Nichols, le prince des trois quarts du début du siècle, capitaine de l'équipe galloise qui, seul, avait vaincu les All Blacks lors de la première tournée en Europe. Gen Nichols avait été ébloui par le jeu pratiqué par les Néo-Zélandais. Ni arrière, ni avant, mais 15 hommes assez athlétiques pour supporter l'épreuve du feu en mêlée, assez grands pour prendre les balles en touche, mais tous également adroits et unanimement soucieux de faire vivre le jeu. Le premier titre de champion de France ne se fait pas attendre. En 1913, le jeu d'attaque incessant des Bayonnais les mène au succès face au SCUF, Sporting Club Universitaire de Paris, 31-8, 5 essais en deuxième mi-temps. 20 000 spectateurs assistèrent à ce match à Colombes. Les finalistes battus portèrent les vainqueurs en triomphe vers les vestiaires. Les héros de cette finale, les frères Forgues, Charles, Fernand et Jules. Jules et Charles périront au combat durant la Grande Guerre avec 7 autres coéquipiers. D'autres en reviendront mutilés. Dans sa fabuleuse histoire du rugby, Henri Garcia évoque le jeu à la bayonnaise à travers le commentaire d'un journaliste de l'Auto, le journal sportif de l'époque, présent à cette finale. Vraiment, ces joueurs de l'aviron bayonnais ont été étourdissants de brio, renversants d'audace et surtout stupéfiants d'adresse. Le jeu de ces 15 Basques ne peut être comparé à celui d'aucune équipe au monde. Pas de ces départs de dribbling à l'irlandaise ou à l'écossaise pour se dégager. Pas de belles combinaisons derrière la mêlée, comme nous en ont fait voir jadis les belles équipes du Pays de Galles. Pas de ces trucs extravagants que nous avons admirés chez les Néo-Zélandais. Non, simplement 15 beaux gaillards bâtis, non en force mais en finesse, et dans les veines desquels coule le généreux sang basque. Chacun d'eux n'a durant 80 minutes qu'un objectif. S'emparer du ballon, dans n'importe quelle position, aller le plus loin possible avec, droit devant eux, ne le passer que lorsqu'un camarade est mieux placé pour continuer l'attaque et recommencer à courir à côté de ce dernier pour le doubler si nécessaire. Avant d'obtenir le deuxième titre en 1934 face à Biarritz, l'aviron bayonnais aura essuyé 2 défaites en finale face à Toulouse. En 1922, Bayonne s'incline 6-0. Les Toulousains possèdent dans leur rang 8 internationaux, dont le redoutable stratège le demi de mêlée Philippe Strussiano, qui avait déjà remporté le titre en 1912, donnant au Stade toulousain le surnom de Vierge Rouge. En 1923, les coéquipiers d'André Béotégui et du grand Owen, à l'époque âgé de 38 ans, s'inclinent pour la deuxième année consécutive sur le score de 3-0. Cette finale est surtout la première à avoir été radiodiffusée par la société française radioélectrique Radiola. En 1934, à Toulouse, le pack de Biarritz, plus lourd et plus grand, fut asphyxié en fin de match par la vitesse et la furia bayonnaise. Score final 13-8 pour Bayonne, qui avait renversé la tendance grâce à l'ouvreur Émile Elissalde et l'ailier Sellet, auteur d'un essai et surtout d'un drop qui, à l'époque, valait 4 points. Bayonne et Biarritz se connaissent depuis longtemps. Leur toute première rencontre avait eu lieu en 1908, déjà au stade d'Aguilera, entre l'ancêtre du Biarritz Olympique, le Biarritz Stade, qui s'imposa sur le tapis vert pour un premier contentieux de licence non conforme. Déjà, le duel des frères de la Côte. En 1943, troisième titre, Bayonne, représentant la zone occupée, l'emporte 3-0 sur Agen, représentant la zone libre. Le match se dispute au Parc des Princes devant 30 000 spectateurs. Les Basques sont privés de Georges Elissalde, le père d'Arnaud, le grand-père de Jean-Pierre et arrière-grand-père de Jean-Baptiste. Ce sont des lignées des Elissalde, partis de La Rochelle, ayant rayonné en Pays Basque. Des deux côtés, on trouve surtout d'anciens trésistes, le rugby à 13 ayant été interdit depuis un décret signé en 1941 par le maréchal Pétain. Le plus fameux d'entre eux se nomme Jean Daugé, très certainement le joueur le plus emblématique de l'aviron bayonnais. Jean Daugé, dit Manec, est né le 12 novembre 1919 à Cambo-les-Bains. Il débute le rugby à l'AS Bayonne avec ses trois frères avant de rejoindre l'aviron bayonnais. En 1937, le club de rugby à 13 de Roanne décide d'enrôler les deux frères, Jean et Roger Daugé, au sein d'un club de premier plan du championnat de France de rugby à 13. Il se révéla incontournable au club et remporte la Coupe de France 1938, le championnat de France 1939. La Deuxième Guerre mondiale éclate alors et oblige à retourner dans sa région natale, jouant dans un premier temps avec Côte Basque 13 en sa qualité de junior. En 1941, le rugby à 13 est interdit et Jean Daugé désire rejouer pour l'aviron bayonnais. Daugé finit par jouer au 15. Trois quarts centre au gabarit de 1m87 pour 87 kilos, il portera les couleurs de l'aviron jusqu'en 1956. En 1973, il devient co-sélectionneur de l'équipe de France avec Jean Desclos. Il est décédé en 1989. En 2001, le stade Saint-Léon à Bayonne devient stade Jean Daugé. En 1944, Bayonne, malgré une génération exceptionnelle d'arrière, s'incline 20-5 face à la furia catalane de l'USAP. Parmi les champions de France de Perpignan figurent de futurs stars du 13, pour l'heure encore frappés d'interdiction par le régime de Vichy. Quatre décennies plus tard, en 1982, Bayonne s'incline face à Agen, 18-9. C'est la fin d'une génération. Celle des Pétrissant, le capitaine, mais aussi d'Hospital, Duprat, Perrier, Belasquin, Pardo, tous internationaux qui avaient fait douter à la fin des années 1970 le Grand Béziers. En 1980, Bayonne se venge en remportant le Dumanoir face à ces mêmes Biterrois. C'est sous la présidence de Francis Alagoïti et avec le sponsor Alain Afflelou que l'aviron entre dans le professionnalisme. Les années 2010 sont marquées par l'instabilité, la menace de la fusion avec Biarritz. Après ces périodes troublées, Francis Alagoïti revient aux affaires et avec Vincent Etcheto, l'aviron retrouve le top 14. Ensuite, ce sera des allers-retours entre Pro D2 et top 14. En 2022, Bayonne, champion de France de Pro D2, a retrouvé le top 14. Bayonne a aussi fait appel à des internationaux étrangers comme le maintien d'une tradition ancienne, le Gallois Mike Phillips, désigné meilleur numéro 9 de la Coupe du Monde 2011, les All Blacks, Joe Rokosoko, 68 sélections avec les Blacks, et Noemia Kialata, 43 sélections. Bayonne est une commune de plus de 52 000 habitants, la principale de l'aire urbaine de Bayonne où elle côtoie Anglette et Biarritz. Malgré ses influences métisses, elle est aujourd'hui reconnue comme la principale ville du Pays Basque français. Important maillon de l'Eurocité basque de Bayonne à Saint-Sébastien, elle joue le rôle de capitale commerciale et touristique du bassin de l'Adour, la capitale industrielle et administrative étant Pau. En 1023, Bayonne est la capitale du labour et s'étend au XIIe siècle vers et au-delà de la Nive, alors qu'est construit le premier pont de l'Adour. La ville, à la suite du mariage d'Aliénor d'Aquitaine avec Henri Plantagenet, comte d'Anjou et du Maine, duc de Normandie et futur roi d'Angleterre, prend une importance militaire et surtout commerciale grâce aux échanges maritimes avec l'Angleterre. Elle est séparée de la vicomté du Labour en 1177 par Richard Cœur de Lion. Ce dernier confirme ou instaure un certain nombre de droits ou de libertés à la cathédrale comme aux habitants de Bayonne. En 1451, la ville est prise par la couronne de France au terme de la guerre de Cent Ans. La perte des échanges avec les Anglais et l'ensablement du fleuve, puis le déplacement de celui-ci vers le nord, à Cabreton, dans les Landes, l'affaiblissent. Le quartier de Saint-Esprit se développe néanmoins grâce à l'arrivée d'une population juive fuyant l'Inquisition espagnole. Bayonne doit à cette communauté sa notoriété dans le domaine du chocolat. Le cours de la Dour est modifié en 1578 sous la direction de Louis de Foix et le fleuve, retrouvant son embouchure antérieure, redonne au port de Bayonne l'activité perdue pendant plus de 100 ans. Au XVIIe siècle, la ville est fortifiée par Vauban. En 1814, Bayonne et ses environs sont le théâtre de combats entre les troupes napoléoniennes et la coalition hispano-anglo-portugaise emmenée par le duc de Wellington. La ville subit alors son ultime siège. C'est à Saint-Esprit-les-Bayonne qu'a lieu le 21 août 1853 la première course espagnole en France, valant aujourd'hui à Bayonne le titre de plus vieille place taurine de France. On ne quittera pas le Pays basque sans parler de pelote basque. La manu est la discipline de base de la pelote basque puisqu'elle est la plus ancienne et la plus noble qui se joue sur fronton, en trinquet, en mur à gauche. En Pays basque, on est rugbyman et pelotari.
C'était la chronique de Gilles Labouroir à retrouver en podcast sur le site d'Esprit Occitanie.